des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le commentaire de
Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
Salut Luc, écoute, j'ai une petite théorie et j'aimerais t'entendre là-dessus, OK?
Allons-y.
OK, alors je parle de Trump. On va faire de l'Uchronie, OK? De l'Uchronie, c'est refaire l'histoire. Bon, mettons que Trump était un être humain normal, qui avait pas des problèmes psychologiques et d'égo surdimensionné et des problèmes de narcissisme chronique, qu'il avait pas été grossier, qu'il avait été respectueux avec son programme. Il aurait pu être un bon président. Tu sais, tu regardes ça, le protectionnisme, le retour de la nation, lutter contre la rectitude politique, se tenir debout contre la Chine, etc. Il aurait pu être un genre de Donald Trump, mais c'était son pire ennemi. Tu regardes ça, tu dis, quel gâchis quand même.
Écoute, je pense, d'abord ta prémisse est difficile à ignorer ou à contourner, mais je pense que tu as raison de voir les choses comme ça. Et d'une certaine manière, pour ceux qui aimaient Donald Trump, on aurait voulu bien sûr qu'il soit mieux entouré, mais qu'il conserve cette espèce de je pense qu'on peut carrément parler de charisme. Mais quand on fait déplacer des foules comme il le fait, puis qu'on déplace des gens de la maison dans les bureaux de vote, il a réussi à faire à mobiliser des gens qui ne votaient plus depuis un certain temps déjà, qui avaient abandonné. Je pense qu'on aurait aimé qu'il soit mieux entouré. Pour ceux qui n'aiment pas Donald Trump, je pense que finalement, le fait qu'il ait été si mal entouré ou incapable d'écouter les conseillers, parce qu'il en a eu de bons conseillers, il n'y a pas eu que des incompétents à la Maison-Blanche, si on est honnête et transparent. Je pense que pour les adversaires de Trump, il a rendu service à ses adversaires en ne mettant jamais de frein à ses impulsions, puis en se refusant à écouter les conseils de sagesse les plus élémentaires. Ce qui constituerait un danger pour les adversaires, les démocrates ou des républicains qui ne l'aimaient pas, c'est un Donald Trump plus avisé et plus compétent dans les affaires de l'État. Là, il aurait pu réussir où il a échoué. Et je parle surtout de la définition des pouvoirs d'un président, hein, des limites de ce pouvoir-là, puis de l'encadrement. Essayons juste d'imaginer, et là, l'historien, je viens de lui faire prendre le bar, là, on est dans une œuvre de fiction, mais essayons d'imaginer ce qu'auraient pu être les États-Unis avec quelqu'un de mieux préparé, mais qui aurait eu les mêmes intentions que Donald Trump. Écoute, on pourrait avoir facilement, je pense, un deuxième mandat, Trump.
Ben, tout à fait. Tu sais, Ronald Reagan, on peut être pour, on peut être contre, on peut débattre, mais tu sais, reste que c'était quand même, je pense, un grand président, un président important, quelqu'un qui respectait les institutions. Il était son pire ennemi. Et cette semaine, je parlais à une fille, une Québécoise qui vit au Texas depuis plusieurs années. Et elle, c'était très intéressant ce qu'elle me disait, Luc, parce qu'elle dit, moi, j'aime pas les démocrates. Je voterai pas démocrate, mais j'étais comme obligé de voter Trump. Et j'étais en maudit contre mon parti républicain qui m'a obligé à voter pour ce gars-là. Moi, ce que je voulais, c'est les républicains au pouvoir, mais pas Trump. Fait que, mettez-vous à votre place, qu'elle me disait, je veux pas voter démocrate, ça va contre tout mon ADN. Fait que j'étais comme obligé de voter Trump.
Et ils sont nombreux dans cette situation-là. Puis le débat qu'on va voir au sein du Parti républicain, c'est exactement ce dont cette femme-là qui vit au Texas a fait mention. Qu'est-ce qu'est le Parti républicain? On l'a déjà dit, parmi les 81 millions d'Américains qui ont voté pour Joe Biden, il n'y a pas que des partisans de Joe Biden. Autant dans les 74, 75 millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump, il y en a beaucoup qui sont d'abord et avant tout républicain. Peu importe l'identité de celui qui va se présenter, on le sait, si on l'avait dit, c'est sûr que les élections, ça va être serré. En plus, quand on considère le collège électoral, qui pour l'instant donne un biais favorable aux républicains, on le sait que c'est polarisé. On se bat pas pour tant d'électeurs que ça aux élections, finalement. On se bat pour faire sortir le vote. Et la réflexion du Parti républicain, c'est que sommes-nous sans Trump? Est-ce qu'on a absolument besoin de garder ses électeurs, puis la faction qui dérape? Ils sont peut-être pas si nombreux que ça, mais ils comptent hein, lors des élections. Donc, quel genre de parti on veut être à compter de maintenant? Et je comprends très bien ce que dit cette femme-là. Pour connaître un peu plus la société américaine, m'y être intéressé depuis très, très longtemps, on peut comprendre très bien que dans certaines régions du pays, adhérer à l'agenda démocrate, c'est se condamner à échouer. C'est aller contre ses valeurs profondes, mais c'est aussi oublier la réalité de certaines régions.
C'est pas évident. Il faut que le Parti républicain renoue avec ce qu'il a déjà été. Écoute, voilà. On voit ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. J'ai l'impression d'assister comme à une élection en Irak. Non, mais c'est 25 000 membres des gardes nationales qui sont là pour protéger les institutions démocratiques. Tu dis, attends une minute, c'est-tu les États-Unis, là?
Ouais, puis sans compter les mesures qui ont été déployées ou les soldats ou la garde nationale qui a été déployée dans plusieurs des 50 États américains. On a fermé l'équivalent de l'Assemblée nationale, les State House hein, de chacun des États. On les a fermés, barricadés. Il n'y a pas qu'à Washington où on peut voir des clôtures puis une sécurité armée. Écoute, si notre société canadienne ou québécoise n'est pas parfaite, moi je me réjouis de la façon dont on gère nos élections. Est-ce qu'on imaginerait des mesures comme ça pour ne serait-ce que permettre la transition des pouvoirs. Je me rappelle pas que Stephen Harper ait demandé ça quand Justin Trudeau est entré en fonction. Je me rappelle pas non plus quand M. Legault est arrivé au pouvoir qu'on ait eu à gérer ça de cette manière-là. Si on est parfois tiède dans nos débats, ben il y a un avantage. Est-ce que ce soit tiède, c'est qu'on est capable de faire ça dans le calme et dans le respect. Aux États-Unis, effectivement, c'est hautement anormal ce à quoi on assiste et ça va l'être encore pour un certain temps parce que la menace qu'on craignait pour aujourd'hui, moi, j'ai moins de crainte qu'elle se matérialise aujourd'hui que quand on va baisser la garde.
Ben oui, tout à fait. Là, aujourd'hui, c'est comme lorsqu'on annonce qu'il va y avoir un barrage routier de telle heure à telle heure dans tel coin de rue. C'est certain que tout le monde se tient tranquille. Mais on dirait aujourd'hui un pays qui vient de prendre le virage démocratique, qui est à sa première, mon Dieu, élection, assermentation démocratique, et qui, tu sais, le bébé est encore tout fragile, il est encore tout frais, et on a besoin de l'armée pour le maintenir debout, là. Il y a une tristesse, et c'est l'héritage de Trump qu'on voit, là, aujourd'hui.
Et quand je vais écouter Joe Biden sur le coup de midi, j'ai hâte d'entendre comment il va gérer ça. On s'attend bien sûr à ce qu'il dise « je veux être rassembleur hein, puis je veux qu'il y ait un peu d'espoir », mais il ne peut pas faire comme si ce qui s'est passé récemment n'avait pas existé. Il peut pas faire comme si on n'avait pas pris d'assaut le Capitole et qu'il n'y avait pas toutes ces mesures. Donc, il faut reconnaître le malaise, il faut reconnaître le mal ouvertement, puis l'ampleur de la tâche qui attend le pays. Donc, rassembleur et positif, bien sûr, mais ça, c'est, entre guillemets, en situation normale. C'est ce qu'on attend d'un président habituellement. Ce que le président peut faire comme si ça n'existait pas ou comme si on ne pouvait que balayer ça sous le tapis, à mon avis, c'est une erreur. Les Américains doivent se rappeler, puis on doit leur rappeler s'ils ont tendance à pas le faire, qu'on vient d'assister à... Je trouve toujours que le mot coup d'État est un brin exagéré dans ce cas-ci. Mais il y a eu un assaut majeur contre le Capitole, contre les institutions. Et il faut rappeler que la démocratie, c'est terriblement fragile. C'est exigeant, la démocratie. À mon avis, pour les citoyens d'un pays, c'est le régime le plus exigeant. Et c'est terriblement fragile.
Écoute, à quoi s'attendre de Joe Biden? La question va être posée à 10h. Mathieu Bock-Côté va être avec nous. Et la question qu'il pose, c'est faut-il craindre la présidence Biden? Bon, on sait que les démocrates sont à gauche. Est-ce que c'est un gars de gauche réaliste? Est-ce que c'est la gauche centriste ou c'est la gauche, là?
Non, moi, je crains pas ce dérapage-là vers une gauche, entre guillemets, extrême. On peut pas, et ça a jamais été le cas, tous les présidents ont tendance, quand on parle de démocrates, ça a été le cas des deux derniers, Clinton puis Obama. Habituellement, on gouverne centre-droit, selon nos valeurs ou nos définitions à nous. Là, on fait campagne à gauche chez les démocrates, puis on gouverne centre-droit. Ça a été le cas pour Obama, puis ça a été le cas pour Clinton. Et Joe Biden, qui, et c'est peut-être une de ses forces, là, pour qu'on combler d'autres faiblesses. C'est un gars qui a suffisamment d'expérience et de vécu politique pour savoir quelle est la limite de ce qu'il peut entreprendre. Il va proposer des mesures qui vont paraître extrêmes parce qu'il remplace quelqu'un qui est extrême. Donc, déjà, c'est un peu anormal de voir le nombre de décrets qu'il met en place dès la première journée. Là où Obama en avait fait une dizaine, lui, il a franchi le cap des 70 mesures déjà annoncées pour une première journée. Donc, bien sûr, ça semble extrême, mais parce qu'on faut pas oublier que depuis 4 ans, on est dans un autre extrême. Maintenant, pour l'ensemble des Américains, je crains pas de qu'on prenne la direction. Par exemple, et c'est peut-être une des choses que Mathieu va aborder parce que ça fait partie de ses sujets de prédilection, mais ceux qui craignent, par exemple, les woke, hein, dont on a beaucoup parlé cette année et que je n'apprécie pas particulièrement, Joe Biden ne sera pas un woke. Donc,
Madame Harris, parce que M. Biden, ouais. On ne sait pas s'il va toffer 4 ans. Là, il n'est pas fringant. Donc, Madame Harris, est-ce qu'elle est plus tendance woke ou plus à gauche?
Je crains pas Madame Harris non plus de ce côté-là. Bien sûr, si on est un vrai conservateur, ce sont des progressistes. Faut pas se tromper. Là. Et Madame Harris, sur la question raciale, d'ailleurs, il y a bien des gens qui, quand on regarde les minorités aux États-Unis, il y a des gens qui se sentent mis de côté aujourd'hui, qui ont l'impression qu'on ne leur permet pas de vivre une page d'histoire. C'est la première femme issue des minorités, donc qui a un bagage drôlement intéressant au plan personnel. Puis comme on ne peut pas être à Washington pour le souligner, c'est presque l'équivalent de ne pas pouvoir aller à Washington pour Barack Obama en 2009, par exemple. Donc, on l'oublie, là, on tourne une page d'histoire aussi. Puis parce qu'on a beaucoup mis l'accent sur le 6 janvier, sur l'extrême droite, sur les QAnon, ou ce que tu appelles encore affectueusement des coucous régulièrement, oui. parce qu'on a mis l'accent là-dessus, on oublie le moment historique. Une femme dans les cercles du pouvoir, on est drôlement près de la présidence. On pensait y arriver avec Hillary Clinton à la dernière élection, à l'élection précédente. On y est avec Kamala Harris. Et tu soulignais l'âge de Joe Biden. Même en supposant qu'il termine un mandat, pas certain, rendu à 82, 83 ans, que M. Biden va avoir envie d'un second mandat, Kamala Harris, elle a 4 ans pour se préparer. Moi, je vois ça. Et elle va avoir de véritables responsabilités. Là, on n'en fera pas, et je m'excuse du terme, mais on n'en fera pas une potiche. Elle n'est pas là pour comme décoration, comme fond d'écran pour les discours de Joe Biden. Mme Harris, ne serait-ce qu'au Sénat, parce qu'elle va être appelée à trancher des votes, va jouer un rôle très, très important, mais on peut s'assurer qu'elle va avoir des responsabilités.
Oh non, ça va être vraiment une vraie vice-présidente. Ce sera pas Dan Quayle.
qui s'était trompé en appelant
Potato. Exactement. Oui, tout à fait. Et Luc, la prochaine fois qu'on va se reparler, j'aimerais ça qu'on se parle d'un texte que j'ai vu dans le New York Magazine, qui a été publié le 15 janvier dernier. Je te l'enverrai si tu l'as pas vu. On dit que Donald Trump est pratiquement ruiné. Ouais. On parle de ses finances personnelles et on dit qu'il est pratiquement sur le bord de la faillite personnelle. Donc ça va être aussi intéressant. J'espère que on va quand même continuer de parler de Trump au cours des prochaines semaines parce que
je pense que M. Trump ne nous laissera pas le choix. Puis pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi tu parles, quand les seules banques qui faisaient affaire avec toi ont décidé de fermer les portes puis de serrer les cordons de la bourse, M. Trump vit au crochet de ces banques. Là. Donc, c'est la raison pour laquelle, entre autres, on dit il s'en va vers la ruine lentement, mais sûrement.
Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Luc. Bonne journée. Je te laisse regarder tout ça et commenter tout ça aussi aujourd'hui.
Bonne journée.
Bonne journée.